Bonjour, ici le pasteur Joël Spink. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui avec vous pour vous aider dans votre marche chrétienne, dans l'étude de l'Église. On est présentement dans le 6e chapitre du type victorieux. Nous avons vu jusqu'à présent que la définition du terme Église nous vient du mot grec « ecclesia » qui veut dire « ceux qui sont appelés à sortir de », c'est-à-dire « appelés à sortir du monde ». Nous avons vu que l'Église est une maison spirituelle et un corps spirituel composé de plusieurs membres. De plus, nous avons vu que l'Église est une bergerie avec son grand berger qui est Jésus-Christ, le chef de l'Église. Mais en même temps, nous avons compris qu'il y a également une école avec une équipe d'enseignants. En fait, l'Église, c'est une école, là où nous grandissons ensemble dans les voies de Dieu. Mais, malheureusement, il y a des églises. Et quand on dit église, on parle des communautés ou des congrégations de gens, des croyants, mais qui fréquentent une église, mais qui ne se connaissent pas vraiment. Ils vont à l'église pour apprendre des choses de Dieu, peut-être pour se soulager dans le sens « bien, je viens de faire mon devoir de bon chrétien, je me suis rendu à l'église », mais c'est pas assez d'aller à l'église pour réchauffer un banc d'église ou pour aller apprendre des choses, mais en même temps, l'église est également une famille qui fraternise. Et c'est une des choses que nous allons voir ensemble maintenant. L'église est une famille qui fraternise. Et c'est ça que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Dans l'église primitive, nous voyons dans Actes 2 et le verset 41 à 42, il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. » Oui, voyez là, il y avait l'enseignement, oui. « Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc, il y avait cette communion entre les gens, la fraction du pain, les gens mangeaient ensemble. Il y avait la Sainte Cène aussi, la communion. Ils priaient également ensemble. Donc, il y avait une vie d'église, une vie fraternelle. Et dans Actes 2, 46 à 47, il est écrit, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Donc, on voit ici, les gens étaient ensemble, ils n'avaient pas peur de se voir. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on doit aller à l'église à chaque jour de notre vie, mais faut être prêt à fraterniser ensemble. En fait, c'est même pas assez d'être prêt, mais on devrait désirer côtoyer des frères et des sœurs. On devrait aimer ça, voir des chrétiens. Et si on n'aime pas ça, on a un problème. Et c'est vraiment vrai. On devrait aimer la communion fraternelle. On devrait aimer ça, échanger sur la parole de Dieu. On devrait aimer prier les uns avec les autres, manger ensemble, partager. C'est normal, on fait partie de la même famille, donc on veut fraterniser ensemble et c'est ça le modèle biblique de l'Église. Donc, si vous êtes à notre Église, bien attendez-vous, on va avoir des repas à gap, des repas où on fraternise ensemble, on jase ensemble, on célèbre les gens aussi à l'Église. Il y a toutes sortes de bons moments qu'on peut vivre ensemble dans l'Église. Une autre chose qu'on veut voir, c'est l'Église est une famille qui offre un soutien émotionnel. Vous savez, il y a des églises où on peut se rendre, les gens vont dire bonjour, bye bye, Seigneur te bénisse, et puis c'est tout. On ne connaît pas les gens. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre notre vie chrétienne isolée les uns des autres. Mais non, nous sommes supposés de se côtoyer, se connaître et puis se soutenir également. Vous savez, la vie, là, ce n'est pas juste un jardin de roses. Non, parfois, il y a des temps, des moments difficiles et on est là pour se soutenir, pour s'encourager. Dans 1 Corinthiens 12, versets 25 à 26, il est écrit « Qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Voyez-vous ici, il y a un esprit familial. On veut se soutenir. Quelqu'un va mal, bien on va être là pour la personne, pour l'encourager, soutenir, prier avec la personne. Et si la personne se fait célébrer, vient de vivre une victoire, bien gloire à Dieu, on se réjouit avec la personne. Dans Romains 12, versets 15 à 16, il est écrit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas au point sage à vos propres yeux. Donc, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un est en dépression et on va être déprimé avec eux? Non. Mais quelqu'un est dans la joie, on va se réjouir pour leur victoire, leur joie. Gloire à Dieu. Quelqu'un pleure, vient de vivre une douleur. Qu'est-ce qu'on va faire? Reprendre la personne et dire « Non, 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 sois dans la victoire, ne pleure pas. » Non, on va dire, OK, on peut même pleurer physiquement, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir un cœur de compassion, avoir un cœur compatissant. Quelqu'un vient de vivre quelque chose de difficile, on va être là compatissant, on va encourager la personne à dire, OK, je comprends qu'est-ce que tu vis, ou peut-être on ne comprend pas, mais au moins on est là et on va dire, bien, regarde, on va aller vers le Seigneur, on va prier pour cette chose-là. Tu n'es pas tout seul présentement, je suis là pour toi, je vais t'encourager, je vais te soutenir dans cette épreuve. Et puis, je crois que c'est ça le cœur de Dieu. On offre un soutien émotionnel. Aussi, l'Église est une famille qui offre une protection spirituelle. Juste le fait que vous êtes en train d'écouter ce CD-là, c'est une forme de protection spirituelle parce qu'on vous a enseigné des choses pour vous prévenir des fausses doctrines qui circulent dans le monde chrétien et dans le monde religieux. Comme vous savez, on a déjà parlé de la Trinité. Il y a toutes sortes de fausses doctrines qui circulent à ce niveau-là. Mais le fait d'avoir entendu des enseignements comme ça, vous êtes déjà préparé. Donc, il y a une protection spirituelle, mais que vous retrouverez également dans votre église locale. Donc, une des choses, la famille, cette église est une famille qui offre une protection spirituelle contre les faux enseignants qui veulent s'infiltrer dans nos églises. Et là, dans le contexte que nous lisons souvent dans le Nouveau Testament, les gens se rassemblaient dans des maisons. Alors ici, nous retrouvons des textes aussi qui s'appliquent aux églises-maisons. Dans Galates 5, verset 12, nous lisons ici, « Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? » S'il y a des gens qui s'introduisent dans l'église locale et leur seul désir est de détruire. Il y a des gens, des fois, qui arrivent dans les églises et puis parce qu'ils sont blessés intérieurement, ils se mettent à parler contre les autres et ils sont là juste pour semer la pagaille, ils sont là pour semer la division, ils sont là, ils marchent dans la médisance, ils attaquent les gens, ils noircissent la réputation des gens, ils sont là remplis de haine, ils vont attaquer les gens. Bien, si vous êtes dans une église locale en santé, bien le pasteur va reprendre cette personne-là avec amour, mais pour aider la personne à guérir. Et on va dire, écoute, toi, tu sembles détruire les gens avec ta bouche, mais il y a une raison, il y a une racine dans ton cœur. On veut prier pour toi, on veut t'aider à vivre une guérison pour changer. Donc, le cœur, ce n'est jamais d'enlever la personne de l'église premièrement, mais on veut amener une guérison, une correction. Mais si la personne est déterminée, non, moi, je veux rien savoir, c'est comme ça, et puis je ne veux pas changer, bien là, la Bible dit, puisse-t-elle être retranchée? Faut enlever cette personne-là qui ne veut pas changer, qui veut détruire l'Église. Pourquoi? Mais parce qu'on est là, les bergers et pasteurs sont là pour protéger les brebis. Dans 2 Jean, chapitre 1 et le verset 7 à 11, il est écrit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ici, nous comprenons le contexte, c'est que l'Église primitive, à cette époque-là, pouvait se rencontrer dans une maison. Alors ici, ne le recevez pas dans votre maison, ou en autre mot, ne le recevez pas dans votre Église et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, au juste? Bien, il y a quelqu'un, un faux prophète. Bon, vous connaissez que c'est un faux prophète. Bien, n'invitez-le pas à prêcher dans votre église. Et il ne faut même pas participer à ses mauvaises œuvres. Ne le saluez pas. Si vous savez, c'est quelqu'un qui propage des mensonges sur Jésus-Christ, qui détruit la réputation de Jésus, qui veut ternir l'évangile de Jésus-Christ, mais ne participez pas avec lui. Ne dites pas « Hey, bonjour mon ami ». Non, 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 ce n'est pas un ami, c'est un ennemi de la foi, un ennemi de la croix. On ne l'invitera pas à prêcher chez nous. Non, mais c'est tout à fait normal, ça fait du sens. Donc, la famille spirituelle de l'Église offre une protection spirituelle. Si nous voyons, on va enlever les méchants parmi nous, les gens qui sont là pour troubler l'Église et les autres pour la détruire. C'est certain, ça fait du sens. En même temps, une famille qui offre une protection spirituelle pour celui qui a chuté. Certainement, il y a des gens dans nos églises qui vont chuter dans le péché. Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas les retrancher, non. S'ils sont repentants et ils veulent marcher avec Jésus, bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va les aider. Dans Matthieu 18, verset 15 à 18, il est écrit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-le au leadership de l'Église. Allez voir votre pasteur et dites, « Écoutez, il y a un frère dans l'Église, il vit dans le péché présentement. Et puis, je suis allé toute seule le rencontrer. Il voulait rien savoir. J'ai vraiment essayé de le gagner. C'était ça mon cœur, mais il voulait rien savoir. Ensuite, je suis allé avec quelqu'un d'autre. Et les deux ou les trois, on était là, puis on voulait essayer de le convaincre de revenir dans le chemin de la sainteté, dans le chemin de la vérité. Il ne veut rien savoir. Aujourd'hui, il veut vraiment pratiquer le péché. Il veut vraiment marcher avec l'ennemi et le paramour pour voir ce frère ou cette sœur revenir au Seigneur vraiment. Et là, vous allez le dire aux bergers ou à l'équipe pastorale pour que les bergers puissent intervenir pour essayer eux aussi d'aller chercher la personne. Ce n'est jamais le but d'aller écraser la personne. Non, c'est avec amour, le désir est d'aller secourir la personne de cette séduction. Donc, au verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, toujours au verset 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En autre mot, bon, quand ça dit qu'il soit pour vous comme un publicain ou un païen, est-ce que ça veut dire qu'on veut crucifier la personne? Non. Mais ça veut dire qu'on n'aura pas cette relation fraternelle avec la personne. Si on continue à avoir une relation fraternelle avec quelqu'un qui marche dans le péché, c'est comme si on est en train de dire, bien, ton péché ici, toutes les choses que tu es en train de faire contre toi, bien, pour moi, ça me dérange vraiment pas. C'est comme, poursuis ton chemin. Mais quand on dit non, écoute mon frère, là, je veux tout faire pour que tu puisses marcher dans la vérité, je suis concerné pour toi. Quand on continue comme ça et on permet à un frère ou une sœur à venir fraterniser avec nous comme si rien n'était, bien, on n'aime pas véritablement la personne. En plus, qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner un mauvais témoignage de l'Église. Les gens de l'extérieur vont dire, ah, coudonc, dans cette Église-là, c'est permis que telle chose se passe. Et encore, non seulement est-ce que ça peut être un mauvais témoignage de l'extérieur, mais à l'intérieur, les gens peuvent dire, ah, ben le pasteur permet telle ou telle chose. Par exemple, on peut commettre l'adultère et puis il n'y a pas de problème, on poursuit là-dedans et le pasteur et l'équipe pastorale, eux, ils trouvent que c'est correct, c'est bien. Non, on doit mettre de l'ordre dans l'Église. On veut marcher avec le Seigneur véritablement. On ne joue pas à la religion. On veut marcher dans cette relation avec Dieu et vraiment servir le Seigneur. Donc, c'est une chose qu'on doit faire selon la parole de Dieu. Dans Galates 6 et le verset 1 à 5, il est écrit, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. » Ici, nous voyons là, le cœur de la personne qui vient redresser, c'est un cœur rempli d'amour. Et habituellement, quand on approche une personne dans le péché et on est vraiment peiné, on est là, écoute, mon frère, ma sœur, faut arrêter cette chose-là. Bien, la personne va être touchée, la personne va vouloir habituellement, à moins d'être vraiment, vraiment endurcie, là. Mais habituellement, si on s'approche de la personne, pas avec un cœur rempli de jugement et là pour condamner, mais quand on est là pour aimer et voir une restauration, la personne souvent va se laisser encourager à revenir dans les bonnes voies. Alors, voilà des choses importantes de l'Église locale. C'est super important d'être dans l'Église locale parce que peut-être cette personne-là qui va chuter, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien et vous serez la personne pour aider, emmener cette personne-là sur le bon chemin. Alors, d'ici à la prochaine fois, on va poursuivre dans notre prochaine session encore une fois sur l'Église et on va continuer à grandir dans ses voies et apprendre les bonnes choses sur l'Église locale. Et d'ici cette prochaine fois, soyez richement bénis et soyez fidèles dans votre marche avec le Seigneur.